Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa seconde et dernière émission du mois d'avril. En attendant, bien sûr, le mois prochain.
Qu'à chaque fois, tu fais peur. On dit dernière, on dit ça y est, jamais Amnesty, mais les gens vont être trop tristes.
Non, mais quand c'est la première, je dis que c'est la première émission du
mois. Ouais, mais tu peux dire l'émission du mois. C'est pour rappeler, les gens vont comprendre.
C'est pour rappeler la date. Et donc, il va être consacré très largement ce soir à la parution du rapport annuel d'Amnesty, le rapport annuel 2024 qui vient de sortir, qui est sorti là à mi-avril. Et ça m'a fait penser, en écoutant le générique, qu'il y a une phrase qui est dite dans ce premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Tous les hommes sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Bon, ça, c'est des valeurs qu'on partage complètement à Amnesty. Mais il faut bien vous dire que le rapport annuel, il reste un bilan du monde qui ne va pas du tout dans ce sens-là et qu'il faut être très vigilant sur ce qui va se passer par la suite. Alors, juste quelques mots pour vous rappeler ce que c'est que le rapport annuel d'Amnesty. Eh bien, c'est un gros pavé hein, qui fait plus de 500 pages, qui paraît tous les ans et qui fait l'état du monde en fait en enquêtant dans 155 pays en général à peu près dans le monde. Donc c'est la quasi-totalité des pays. Ce sont des enquêtes qui sont menées par les chercheurs d'Amnesty. Il y en a une centaine à travers le monde qui étudient ces pays. Et tous les pays y figurent, y compris la situation des droits humains en France. On vous en reparlera dans une prochaine émission, je pense. Donc voilà. Donc pour l'apparition de ce rapport,
on va leur dire tous les pays. Ils vont être fatigués les gens. Quand
non
même.
Non, on va pas leur dire tous les pays, mais on va en fait faire la présentation générale. Et la présentation générale, elle a été écrite comme à chaque fois par la secrétaire internationale d'Amnesty International, qui s'appelle Agnès Canamar. Et donc voici ce qu'il est dit dans le préambule de ce rapport. À l'occasion de la sortie de notre rapport annuel, qui dresse un bilan implacable de la situation des droits humains dans 155 pays à travers le monde, notre secrétaire générale Agnès Canamar nous livre son analyse. Elle dénonce notamment un retour en force des pratiques et des idées autoritaires et alerte sur les dangers des technologies pour les droits humains. Alors voici donc ce que dit Agnès. Jamais je n'aurais pensé que j'évoquerais un jour le film des années 80, Retour vers le futur, pour parler de la situation en matière de droits humains. Nous en sommes pourtant là. Dans un monde qui renonce dans le temps en tourbillonnant, fonçant vers l'avant 1948, année marquée par la promesse d'une universalité des droits fondamentaux, tout en se rouant encore plus vite en avant vers un avenir aux mains de géants technologiques et d'une intelligence artificielle, IA, générative, échappant à tout contrôle.
Selon le Centre de recherche en sciences politiques, le VIDEM, le nombre de personnes vivant dans des démocraties, c'est-à-dire de façon générale dans des pays où s'applique l'état de droit, où l'exécutif est soumis à un contrôle exercé par les pouvoirs législatifs et judiciaires, et où les libertés civiles sont respectées. Donc, le nombre de personnes vivant dans ces démocraties est revenu en 2023 au niveau de 1985, soit avant la chute du mur de Berlin, avant la libération de Nelson Mandela et avant la fin de la guerre froide, alors synonyme d'un espoir d'ouverture vers une ère nouvelle pour l'humanité. Une ère nouvelle bien trop brève et dont il ne reste aujourd'hui quasiment plus qu'un souvenir. Ce constat est devenu plus évident que jamais en 2023. Les pratiques et les idées autoritaires se sont répandues au sein d'un grand nombre de gouvernements et de sociétés. Du nord au sud et d'est en ouest, les politiques autoritaires ont grignoté la liberté d'expression et d'association, contesté l'égalité des genres et érodé les droits sexuels et reproductifs. Fondé sur la haine et se nourrissant des peurs, le discours public dominant a empiété sur l'espace civique et s'est employé à diaboliser les individus et les groupes marginalisés, et plus particulièrement les personnes réfugiées ou migrantes et les membres des populations racisées.
Le retour en arrière en matière de droits des femmes et d'égalité des genres s'est accentué en 2023. Et bon nombre d'acquis de ces 20 dernières années se sont retrouvés menacés. En Afghanistan, le fait d'être une femme ou une fille est devenu de fait un crime. Les talibans ont adopté en 2023 des dizaines de décrets destinés à faire disparaître les femmes de la vie publique. De même, en Iran, les autorités ont poursuivi leur violente répression du mouvement « Femmes, vie, liberté » et se sont répandues en déclarations haineuses qualifiant de « virus », de « maladie sociale » ou de « désordre » la décision de certaines femmes de retirer leur voile. Aux États-Unis, 15 États interdisaient désormais totalement l'avortement ou ne l'autorisaient plus qu'à titre exceptionnel, dans des circonstances extrêmement limitées, avec des répercussions disproportionnées sur les personnes noires et d'autres personnes racisées. En Pologne, au moins une femme est morte de ne pas avoir pu légalement bénéficier des services d'avortement que son État nécessitait. L'Ouganda a adopté une loi anti-gay très répressive, tandis que certains responsables politiques américains se faisaient les chantres de discours, de politiques et de réglementations hostiles aux personnes transgenres. Alors que la richesse globale n'a jamais été aussi importante à l'échelle de la planète, l'année 2023 a été, comme l'a déclaré la Banque mondiale, placée sous le signe des inégalités. Les défenseurs des droits économiques et sociaux ont été parmi les militants et militantes les plus fréquemment pris pour cible par la répression dans des pays aussi divers que le Royaume-Uni, la Hongrie ou l'Inde. Les militants et militantes pour le climat ont été qualifiés de terroristes pour avoir dénoncé des décisions gouvernementales d'accroissement de la production et du financement des énergies fossiles. Des personnes qui critiquaient la manière dont l'économie était gérée au Moyen-Orient ont été réduites au silence et arbitrairement arrêtées, tout comme des syndicalistes dans la région Asie-Pacifique ou des militants et des militantes engagés dans la lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest.
Cependant, en 2023, notre machine à remonter le temps métaphorique nous a également projetés bien plus loin dans le passé, bien avant 1985, nous entraînant dans une descente vers un enfer dont les portes avaient pourtant été verrouillées en 1948. « Plus jamais ça », avait déclaré l'humanité au lendemain d'une guerre mondiale qui avait fait quelque 55 millions de morts dans la population civile et après avoir été confrontée à l'horreur indicible d'un holocauste qui s'était traduit par l'extermination de 6 millions de personnes juives et de millions d'autres individus. Malheureusement, en 2023, les leçons morales et juridiques issues de ce « plus jamais ça » ont été réduites en miettes. À la suite des crimes monstrueux perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023, qui se sont soldés par la mort de plus d'un millier de personnes, pour la plupart des civils iraniens, israéliens, des milliers de blessés et la prise de quelque 245 otages et prisonniers et prisonnières, Israël s'est lancé dans une campagne de représailles qui s'est muée en une expédition punitive contre toute une population. Cette campagne s'est traduite par des bombardements aveugles ou délibérés contre des personnes et des infrastructures civiles, le blocage de l'aide humanitaire et une famine organisée. Quelque 21 600 Palestiniens, Palestiniennes, pour la plupart des civils, avaient été tués fin 2023 dans les bombardements incessants sur Gaza. Des milliers d'autres étaient portés disparus, vraisemblablement enfouis sous les décombres. La plupart des infrastructures civiles de Gaza ont été anéanties et près de 1,9 million de personnes étaient déplacées à l'intérieur du territoire et privées d'accès à une nourriture suffisante, à l'eau, à un abri, à des installations sanitaires et à une assistance médicale.
Pour des millions de personnes du monde entier, Gaza symbolise aujourd'hui l'échec moral retentissant de nombre des architectes du dispositif mis en place à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et leur incapacité à défendre l'engagement absolu en faveur du principe d'universalité de notre humanité commune et du « plus jamais ça ». Les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, les conventions de Genève, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et le droit international relatif aux droits humains ont été bafoués. Si cela est particulièrement manifeste de la part des autorités israéliennes, Israël n'est cependant pas le seul coupable. Les États-Unis ont aussi joué un rôle déterminant, comme certains dirigeants et dirigeantes européennes et les responsables de l'Union européenne. C'est également le cas de celles et ceux qui continuent d'envoyer leurs armes à Israël, qui n'ont pas condamné les incessantes violations des droits perpétrés par ce pays et qui rejettent les appels à un cessez-le-feu. Leur attitude est typique de la politique du « deux poids, deux mesures » dénoncée depuis des années par Amnesty International. Certains acteurs puissants sont même allés encore plus loin, se montrant prêts à mettre en péril l'ensemble du système codifié mis en place en 1948, méprisant les principes fondateurs de l'humanité et de l'universalité et nous dépouillant de notre capacité, en tant que communauté mondiale, à éviter le pire. Ceux-ci s'engouffrent dans la brèche ouverte par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, une violation de la Charte des Nations Unies commise au mépris de l'état de droit international. L'agression russe a continué de se traduire par des attaques délibérées contre des civils, faisant des milliers de victimes et détruisant massivement les infrastructures civiles et notamment les installations ukrainiennes destinées au stockage et à l'exportation des céréales. De même, la Chine, autre membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a enfreint le droit international en protégeant le régime militaire du Myanmar et ses frappes aériennes illégales, en pratiquant l'arrestation arbitraire et la torture, et en cherchant à dissimuler au regard extérieur les crimes contre l'humanité qu'elle continue de commettre, notamment contre la minorité ouïghour.
L'arrivée en 2023, beaucoup plus rapide que prévu, de ChatGPT-4 et d'autres outils d'intelligence artificielle générative, nous a également précipités à une vitesse accélérée vers le futur. À en juger par les abus liés à l'usage des technologies constatés en 2023, nos perspectives d'avenir sont bien sombres. Ces technologies ouvrent la porte à une érosion générale des droits fondamentaux, perpétuant les politiques racistes et favorisant la désinformation et les restrictions de la liberté d'expression. Les géants technologiques ont choisi d'ignorer ou de minimiser ces effets néfastes, y compris en situation de conflit armé, comme en Éthiopie, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, au Myanmar ou au Soudan. Face à la montée alarmante des contenus en ligne incitant à la violence, ou plus généralement nocifs, aussi bien contre les Palestiniens que contre les personnes juives, on a pu constater en Europe et aux États-Unis une forte recrudescence des crimes haineux motivés par l'islamophobie et l'antisémitisme.
En 2023, les États ont de plus en plus eu recours aux technologies de reconnaissance faciale comme aide au maintien de l'ordre lors de manifestations et d'événements sportifs ou contre des populations marginalisées, en particulier des personnes migrantes ou réfugiées. Ils ont fait appel à des technologies abusives dans le cadre de leur politique migratoire et de contrôle aux frontières, notamment à des technologies permettant l'externalisation des contrôles d'entrée sur leur territoire, à des logiciels d'analyse des données et des systèmes de prise de décision s'appuyant sur des données biométriques et algorithmiques. Les logiciels espions ont continué d'échapper dans une large mesure à toute réglementation, alors que les atteintes aux droits humains qu'ils entraînaient étaient attestées depuis des années. Amnesty International a ainsi révélé en 2023 que le logiciel espion Pegasus avait été utilisée contre des journalistes et des militants de la société civile en Arménie, en Inde, en République dominicaine et en Serbie. En outre, des logiciels espions provenant de l'Union européenne ont été vendus à des pays du monde entier. Le Parlement européen a réagi en adoptant, en novembre 2023, une résolution critiquant l'absence de mesures destinées à limiter les atteintes commises par le secteur des logiciels espions. Cependant, puisque les hors-la-loi de la tech et leurs outils peu recommandables sont laissés libres de sillonner à leur grise le Far West numérique, les atteintes aux droits humains de ce genre risquent fort de se multiplier en 2024, année électorale majeure. Tout cela n'est qu'un avant-goût d'un avenir qui déjà se profile.
La régression qui s'est produite en 2023 sur le plan des droits humains n'est pas passée inaperçue, bien au contraire. Dans le monde entier, des hommes et des femmes se sont mobilisés face à ce retour en arrière, faisant ainsi preuve d'une solidarité internationale sans précédent. Le conflit entre Israël et le Hamas a provoqué des centaines de manifestations à travers le monde. Des millions de personnes ont dénoncé les meurtres de civils, appelé à la libération des otages et exigé un cessez-le-feu. Le secrétaire général des Nations Unies, les responsables des différents organes de l'ONU et de nombreuses organisations humanitaires ont pris des mesures inédites pour condamner les crimes de guerre commis dans le sud d'Israël et à Gaza et pour demander à Israël de respecter le droit international. Les résolutions appelant à un cessez-le-feu adoptées fin 2023 par l'Assemblée générale des Nations Unies ont reçu le soutien d'une très large majorité d'États. L'Afrique du Sud a pour sa part introduit un recours auprès de la Cour internationale de justice, accusant Israël de violer, par son comportement à Gaza, la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, et soulignant le rôle central que devait jouer le système international codifié mis en place après la Seconde Guerre mondiale.
L'année 2023 a aussi été celle de la montée en puissance de l'idée d'un régime mondial favorisant une fiscalité plus équitable, afin de lutter contre l'évasion ou l'optimisation fiscale et de mobiliser des moyens en faveur des pays à faible revenu. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté en novembre, contre la volonté des pays riches, une résolution proposée par les États d'Afrique et mettant en place une commission internationale chargée de rédiger d'ici juin 2025 un projet de convention de l'ONU sur la fiscalité. Nombreux ont été celles et ceux qui, en 2023, ont résisté aux forces qui tentaient de ramener le monde dans la situation de 1985, voire d'avant 1948, et qui les ont entravés. Beaucoup aussi ont défilé et manifesté pour s'opposer aux forces qui entendaient nous propulser dans un futur que nous ne souhaitons pas. Toutes ces personnes ont également eu une influence déterminante sur ce qu'a été l'année 2023, envers et contre tous. J'espère qu'en 2048, ou même en 3048, les diplomates et les militantes se remémoreront cette année-là comme une année où beaucoup de gens bien, un peu partout dans le monde, ont fait ce qu'ils pouvaient. Des gens qui se sont dressés pour dire stop, au nom de notre humanité commune.
Voilà, c'est sur ce petit cœur que nous avions décidé de faire.
Voilà, on ne savait pas, on n'a pas choisi, trouvé qui allait dire ces
On a failli le dire en chanson ensemble. Cette année-là, mais on s'est dit, non, on ne peut pas remettre Claude François quand même. Mais voilà, et 2023, donc, ça rime et donc c'est avec sur, cette année-là.
C'est sur cette phrase que se termine effectivement dans cette introduction au rapport.
Cette lettre qui nous a plu à tous les trois, qu'elle fait vraiment...
Des fois, on se partage les articles, et puis là, en fait, on l'avait tous choisi, donc on s'est dit, allez, on le partage.
Alors, pour ceux qui n'ont pas tout écouté ou pas tout retenu, elle est sur le site d'Amnesty. Vous pouvez aller la relire tranquillement.
Voilà, elle est même sur la page d'accueil en ce moment, amnesty.fr, et vous tombez directement sur l'article. Et en bas de l'article, vous avez effectivement la référence et le renvoi à ce rapport annuel qui est téléchargeable, bien évidemment, autant de fois qu'on veut. Donc, on va passer à la première pause musicale.
Moi, j'ajouterais juste un tout petit mot, puisqu'on parlait d'année.
Tu veux toujours ajouter des petits mots. Oui, tout
le temps.
Un tout petit mot, puisqu'on parle d'année électorale, et c'est le cas en France. On a des élections là dans pas longtemps. On vous en a parlé à la dernière émission. Et il y a certains partis politiques qui ont le vent en poupe. Réfléchissez bien, mettez vos bulletins de vote, vous tous, citoyens et citoyennes qui votez.
Déjà voté.
De mettre votre bulletin de vote dans l'urne. Réfléchissez bien aux conséquences en termes d'atteinte aux droits fondamentaux que comprennent les discours et les prises de position de certains de ces partis. Encore une fois, on sait où quand les atteintes aux droits fondamentaux commencent, on ne sait jamais où ça finit. Donc, pensez à tout le monde, pensez à vos enfants avant d'aller voter et ne votez pas pour ces partis, effectivement, qui bafouent les droits fondamentaux. Voilà. Donc, première pause musicale et on se retrouve juste après.
میدونن همه گشاده دهنت بزرگه ولی این لغمه برا تو جواب داد آخر دعا کردنت منجی میاد میدوز جمعه لبا تو به گاوبندی عادت کردی دیس ما ولی فیک نیست پسر بود جمعه سپاه المهدی سجده کن تا مده بنزین بزن کاسه به درد کیه توی کاسه به خون پرچم تروریه که رابده پول کاسه به لیسه کل تیم فاسده تون هیچ جور در نمیاد این زائد جور آشتی کنون بود یا بله برون اجماع شغال زیر دست چکون دسته یا کور دنبال رمز عبور فیت میزنه بیرون نه ما بعد دخول حالت دستی را حالت گاهی دستات باز ولی پاوند داری غلام نظام مبلغ فحشی و الحق کرف کنه سارن به من میگن رپر تند رو شوالیه دشمن نظام آره تانک دارم دوتا پادگان تو همه سپاه از پایین شهر خبر نداری نه اینجا پلیسا به گیر نیستن فراری هن شبی خون زدن به رئیسات که نخوابیدن بازی نیست جنگ چش نذاری پر پلک نذاری شب کابوس اربابتم زدن تشت بی هنر حیفه بی تو حرف رب کربلات تو رو تش نمی با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو باندت سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رب با زیر تیغ با صد تا خدمت صد با زیر شیط با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو باندت سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رب با زیر تیغ با صد تا خدمت صد با زیر شیط کرد بزن جو فوج خالی ببنده جیبت کوچیکی که گاری بت بسته بعد جور داده پول حاجی بت مرزه وگر نه چرا نازی باید لاتی برقصه اگر رقصت خوبه ما میذاریم ما مهمون نوازی میزبانیم ما هم دیس بازی بلدیم و ایستگاهی میزنیم و جا کوکل میدیم ریتالیم به تلاتی تا وقتی که پیکنیک پره تا وقتی که جنس تو چیلیمه گل جوجه از تخم دنبال رین میدوه اوپس بچه پشت میک شیر شده حالا هی استوری بذار لاتی پر کن فاتح جنگ تو تا نداری کنتور نقشو نگار کن و زبون بازی بلبل تو اینستا ملق و جلو قاضی قنبل تو جیگرشو نداشتی من آره من جامعه تو شهرت سرمایه من زنجیر ظلم تو قلاده پایینی دنیامون فرق داره با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو باندت سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رپ با زیر تیغ با صد تا خدمت صد با زیر شیط با برنامه میریم جنجالی تیم رو خودتو باندت سرپا میگیریم اینجا سلاخی سیک رپ با زیر تیغ با صد تا خدمت صد با زیر شیط اصلا بس نیستی تو اینا وصلن به تو اصلا پسر پوتین زیر پرچم تو واسه نظام بکشی الهام چرخنده تو ریپ پاپ از وجودتون شرمنده شد حالا بگو ببینم نونش چربه بگو قیمت خون شوری چنده ببینید گنگ تو مصر نه بیت اسپانسر سپاس که لبیک گفتن رپر نیستن اینا پکای پر حرفن بلدن توی لیگای لومپن در میاد صداشون چون بیز جاری قرصن نامه پسند خون سیاسی رو دو په لو بیا پایین اینجا زمین منه من دریای کلمه تو کبیر لبت ما پرچم خلقیم تو جزیره تهش اون که رأس و زد باقی رو حریف همه جوره همه جوره آنی هم داوینچی داریم هم داروین اون که عامل همون راوی پیروز جنگ می نویسه تاریخو اولتیماتوم میگیم ریتمیک اما ما میشن هیستریک هم باطن خفنم ویتری نبر انسان ساز با دیزنی رپ گون میکنه تولید حوزه بیت پلی میشه جای خود به دستور میرسه از قوم به سایز تانکام ترسونده رپ گون میکنه تولید حوزه بیت پلی میشه جای خود به دستور میرسه از قوم به تانکام ترسونده.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc le morceau qu'on vient d'écouter, c'est du rap, ça vous l'avez tous reconnu. Et le chanteur s'appelle effectivement Shervin Hajipour. Alors pourquoi on vous a passé ce morceau? C'est parce que c'est quelqu'un qui est... C'est Thomas Salehi, je me suis trompé. Thomas Salehi, je vais y arriver. Et donc c'est un chanteur iranien qui a été condamné à mort pour incitation à la corruption, là, récemment. Il était en prison depuis 2022. Il avait été libéré très provisoirement et réincarcéré après pour incitation à la corruption et atteinte aux valeurs fondamentales de l'islam. En fait, le véritable motif, c'est que c'est un artiste qui soutient la révolte des femmes en Iran depuis le début. Donc c'est très probablement la vraie raison de sa condamnation à mort, à laquelle évidemment Amnesty International s'oppose et demande à toutes les organisations et à tous les États de protester contre cette condamnation à mort. Voilà. Et on va passer dans un autre pays, on va passer à Gaza. C'est Edith qui va vous en parler.
Oui, par rapport à effectivement la situation Gaza-Israël, donc le rapport avec la lettre d'Agnès Calmar en parle sur l'année 2023, mais 2024, comment dire, c'est quand même pas beaucoup, enfin, il n'y a pas beaucoup d'avancées positives. Alors moi, ce que je voulais juste noter, c'était à Gaza la découverte de fosses communes. Alors selon les responsables palestiniens, des centaines de corps ont été découverts sur les sites de l'hôpital Al-Nasser à Khan Younes et du complexe médical Al-Shifa dans la ville de Gaza. Le 28 janvier dernier, la Cour internationale de justice a indiqué une première série de mesures conservatoires, ordonnant entre autres aux autorités israéliennes de prendre des mesures efficaces pour empêcher la destruction des éléments de preuve et les préserver, ce qui suppose notamment de ne pas refuser ni restreindre l'accès des missions d'enquête, des mandats internationaux et d'autres organismes à Gaza afin de contribuer à la conservation des preuves. Oui, parce que là, le rôle d'Amnesty, c'est effectivement d'aller enquêter. Donc Erika Guevara Rosa, la directrice de recherche et du plaidoyer des campagnes, note que cette terrible découverte souligne la nécessité de permettre à des enquêteurs indépendants chargés d'examiner la situation des droits humains, notamment des experts médico-légaux, de se rendre sans délai dans la bande de Gaza occupée afin d'assurer la préservation des preuves et de mener des enquêtes indépendantes et transparentes en vue d'amener les responsables présumés des violations des droits humains à rendre des comptes. Malheureusement, l'impossibilité pour les enquêteurs de se rendre à Gaza barre la route à des enquêtes efficaces sur l'ensemble des violations des droits humains et des crimes de droit international commis au cours des 6 derniers mois ne permettant qu'un recueil très partiel d'informations. Et en absence de véritables investigations visant à déterminer les circonstances de ces décès et les violations qui ont pu être perpétrées, nous ne connaîtrons sans doute jamais la vérité sur les événements qui se cachent derrière ces fosses communes. De tels sites sont de potentielles scènes de crimes qui renferment des preuves médico-légales cruciales et urgente. Il faut les protéger jusqu'à ce que des experts médico-légaux professionnels disposant de compétences et de ressources nécessaires puissent procéder en toute sécurité à des exhumations adéquates et à l'identification précise des corps. C'est absolument ce que demande la Cour de justice internationale. Mais effectivement, la situation actuelle est très préoccupante car actuellement, personne ne peut aller sur ces sites. Et c'est la bonne volonté d'Israël pour que des enquêtes aient lieu rapidement et avec des professionnels, on va dire, assermentés. Voilà.
Oui, si on veut que la justice effectivement continue, il faut qu'on puisse, enfin que les gens puissent avoir accès aux preuves et puissent savoir établir les faits tels qu'ils se sont produits. Et si on veut aussi éviter les fake news.
Voilà, les faits sont déjà terribles.
Oui, les faits sont déjà terribles, tout à fait.
À toi.
Alors moi, je vais vous parler, parce que là, depuis le début de l'émission, on vous parle quand même de choses un peu dramatiques en termes d'évolution des droits humains. Le temps n'est pas au beau fixe. Hein. C'est un peu comme le temps à l'extérieur, là, en ce moment, en Normandie. Il pleut beaucoup sur les droits
humains. Perturbé.
Il pleut beaucoup sur les droits humains. Mais bon, c'est pas pour autant...
C'est des perturbations climatiques.
C'est ça. C'est pas pour autant qu'on lâchera. Et donc, une information positive que je voulais vous donner à la dernière émission, mais on a manqué de temps. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que tous les ans, au mois de décembre, on fait une opération qui s'appelle 10 jours pour signer sur 10 cas renouvelés chaque année.
10 personnes.
10 personnes ou 10 cas d'atteinte aux droits humains, effectivement, 10 personnes ou 10 groupes de personnes. Et en 2018, donc ça remonte il y a quelques années maintenant, il y avait un des 10 cas qui était consacré à Marielle Franco. Marielle Franco, qui est une femme qui avait été assassinée pendant l'année 2018 au Brésil, à Rio de Janeiro. Donc, effectivement, il était demandé, et il avait assassiné, on ne savait absolument pas qui avait commis ce crime. Et Amnesty faisait campagne pour demander que la vérité éclate sur les raisons de l'assassinat de Marielle Franco. Alors donc, je vais juste vous rappeler effectivement qui était Marielle Franco rapidement. Donc c'était une conseillère municipale engagée dans la défense des plus vulnérables. Et donc, elle a été assassinée ainsi que son chauffeur Anderson Gomez le 14 mars 2018 à Rio de Janeiro par 4 balles dans la tête. Élevée dans la favela de Maré, ensemble de 16 bidonvilles au nord de Rio, Marielle Franco s'engage très tôt dans la défense des droits humains après la mort d'une amie victime d'une balle perdue dans un affrontement entre des trafiquants et des policiers. Rapidement, elle se fait connaître par son activisme en faveur des femmes noires, des LGBT et des jeunes, et dénonce les violences policières. Lorsque Marielle Franco est assassinée le 14 mars 2018, la consternation et la colère dépassent largement la ville de Rio de Janeiro et le parti Socialisme et Liberté, la formation politique qu'elle représentait au conseil municipal. Quelques jours avant son assassinat, la jeune femme, donc Marielle, de 30 ans, écrivait avec colère « Cessez de maltraiter la population, cessez de tuer nos jeunes ». Alors, donc après, Amnesty a réclamé l'ouverture d'une enquête pour savoir qui avait tué cette conseillère municipale. Et donc, la première avancée, petite avancée, s'est produite le 12 mars 2019, donc l'année suivante. Deux policiers, Elicio de Kenios et Ronnie Lessa, soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat de Marielle, ont été arrêtés. Le 14 avril 2023, donc plusieurs années après, la Haute Cour de justice du Brésil s'est prononcée à l'unanimité en faveur du recours déposé par les familles de Marielle Franco et d'Anderson Gomez, donc son chauffeur, reconnaissant leur droit légitime d'accéder aux informations sur l'enquête des commanditaires du crime. Parce qu'en fait, les deux policiers arrêtés, tout le monde pensait, et Amnesty International en premier, qu'ils n'étaient que des exécuteurs, mais que c'était pas eux qui étaient en fait les donneurs d'ordre de son assassinat. Et donc, le 24 mars 2024, donc cette année, toujours par rapport à l'avancée de cette enquête, après six années de procédure pour tenter d'obtenir justice, les familles de la défenseure des droits humains Marielle Franco et de son chauffeur Anderson Gomez, ainsi que la société civile brésilienne et la communauté internationale, ont appris le placement en détention provisoire des trois commanditaires présumés des meurtres. Il s'agit de Domingos Brazão, conseiller de la Cour des comptes de l'État de Rio de Janeiro, son frère Chiquito Brazão, membre du Congrès fédéral, le Parlement, et Rivado Barbosa, chef de la police civile de Rio de Janeiro, en poste au moment des faits. Donc effectivement, ces trois personnes très haut placées qui étaient en fait les donneurs d'ordre. Tous les individus impliquant dans ce crime et dans l'obstruction à l'enquête doivent être traduits en justice et rendre des comptes à l'État brésilien qui doit garantir des réparations aux familles et des mesures pour qu'un tel acte ne se reproduise pas. Voilà. Donc je voulais vous en parler, effectivement, et vous trouverez aussi un article très bien fait sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, par rapport à cette situation, parce que ça montre, quand on mène une campagne comme là depuis 2018, donc il faut avoir beaucoup de patience et être très persévérant, mais on finit par obtenir des choses, et là, effectivement, les trois donneurs d'ordre du meurtre de Marielle Franco, donc trois dignitaires et élus du Brésil, sont actuellement en prison préventive et vont être jugés. Petite parenthèse personnelle que je rajoute par rapport à l'article, même si ça n'est pas dit, mais ça tombe sous le sens, c'est qu'il y a eu un changement de président au Brésil l'année dernière, et que l'ancien président, Bolsonaro, et il n'était pas du tout favorable à ce que cette enquête, effectivement, sur l'assassinat de Marielle Franco soit menée à son terme, et que les choses ont été débloquées depuis le retour au pouvoir de Lula, qui n'est pas du tout la même obédience politique. Donc on peut aussi penser que cela a joué un rôle. Et donc la famille de Marielle Franco a déjà remercié les ONG, dont Amnesty, pour le travail fait autour de l'enquête sur cet assassinat. Voilà.
Voilà, une bonne nouvelle. Effectivement, la ténacité d'Amnesty.
Tout à fait. On va encore changer de pays et de lieu.
Oui,
c'est Edith
moi.
Qui va reprendre la parole, mais je crois qu'elle va vous parler de Tunisie.
De la Tunisie, oui. Vous savez, ce pays où la liberté d'expression est quand même très limitée. Et je vous parlais d'un jugement qui a eu lieu le 31 janvier dernier. La cour d'appel de Monastir a condamné l'artiste Rachel Tamboura à 2 ans d'emprisonnement sur une base d'accusation fallacieuse liée à l'exercice de droit à la liberté d'expression. Alors Rachel Tamboura, c'est un artiste qui fait des peintures, qui fait aussi des affiches. Et là, il avait réalisé une série de graffitis dénonçant les propos racistes du président Kais Saied, visant Kais Saied, oui, c'est parce que les deux prénoms, moi je l'appelle plutôt Saied, mais bon, on dit son prénom, donc j'étais un peu étonnée là. Voilà, je l'aurais dit, donc c'est Kais Saied, visant les migrants et les migrantes subsahariennes. Les forces de police ont arrêté Rachel Tamboura tard dans la nuit du 17 au 18 juillet 2023, quelques heures après qu'il eut réalisé les derniers graffitis. Le 4 décembre 2023, le tribunal de première instance de Monastir l'a déclaré coupable et condamné à 2 ans d'emprisonnement pour offense contre le chef de l'État et pour avoir produit et promu de fausses nouvelles dans le but de porter atteinte aux droits d'autrui ou porter préjudice à la sécurité publique ou à la défense nationale ou de semer la terreur parmi la population, respectivement au titre de l'article 67 du Code pénal et de l'article 24 du décret-loi numéro 54. Alors, c'est pas pour vous appreniez ces articles de loi, mais c'est un peu ce que disait Didier tout à l'heure, c'est que ce président a réussi à faire passer des articles de loi tellement flou qu'on peut reprocher à tout le monde n'importe quoi, et surtout quand ça titille sa politique personnelle. Donc Rachel Tamboura est actuellement incarcéré dans la prison de Monastir, où il proteste activement contre son arrestation. Les autorités tunisiennes, demande Amnesty, doivent libérer immédiatement Rachel Tamboura, annuler sa déclaration de culpabilité et sa condamnation qui sont liées uniquement à l'exercice pacifique de son droit à la liberté d'expression. Alors, la Tunisie, on en parle un petit peu moins, mais à un moment, effectivement, ils ont renvoyé des migrants au Sahara qui sont morts. Les avocats, les médias, tout ça sont pris pour cible. Alors qu'il y a eu tout un grand procès fin de l'été dernier pour des avocats, alors qu'ils n'avaient fait que d'exercer leur profession. Et ce procès a été une parodie de justice. Et il y a actuellement, pour ceux qui veulent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Tunisie, une pétition sur le site d'Amnesty. Vous cherchez sur l'onglet « Pétition ». C'est Shaïma Issa qui risque la prison pour s'être exprimée, pour avoir rencontré des diplomates étrangers. Donc pour l'instant, elle est interdite de voyage. Elle n'a pas le droit de parler. Et effectivement, il peut y avoir aussi une condamnation pour elle. Donc elle est signée pour Shaïma Issa. Bon, et ça, vous pouvez aussi peut-être écrire par rapport au cas de Rachel Tamboura au président Kais Saied. Voilà.
Et on ne peut qu'encourager toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller signer aussi l'ensemble des pétitions qui sont sur le site d'Amnesty.
Voilà, vous cherchez un peu, c'est pas dans les dernières.
Il y en a d'autres.
Mais vous le trouvez, cette jeune femme-là est vraiment a besoin d'aide.
Et encore une fois, signer les pétitions, ça prend pas beaucoup de temps, surtout en ligne.
Surtout en ligne, ça fait clac, c'est un clic, on va dire.
Mais,
voilà.
c'est toujours une forme de pression qui a de son importance par rapport aux autorités. Je fais le lien avec le cas de Marielle Franco, c'est des pétitions, essentiellement des pétitions qu'on avait fait pour elle, et ça a joué. On va
petite pause musicale.
Passer à la deuxième pause musicale et on se retrouve
après,
juste
Claire-Lise
après.
Se prépare.
Oui, c'est Claire-Lise qui va prendre la parole pour ne rien vous cacher. À tout de suite.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای
چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
Voilà, on vient d'écouter un autre chanteur iranien. On a fait dans la musique iranienne ce soir. Donc c'est lui qui s'appelle, j'avais inversé les noms tout à l'heure, Shervin Hajipour. Le morceau s'appelle Baraye, on vous l'avait déjà passé. Mais c'est un très beau morceau, en hommage aussi à la lutte des femmes. Femme, vie, liberté. Et c'est une chanson qu'il a fait en hommage à ce mouvement, en reprenant des slogans qui étaient scandés par les femmes en Iran. Voilà. Et c'est Claire Lise qui va vous parler, mais elle va vous le dire elle-même.
Alors, j'avais envie de partager avec vous un texte qui a été écrit par le président de l'association du Réseau d'éducation sans frontières, RESF 27. Alors, RESF 27, c'est une association que nous, on connaît bien à Amnesty, puisqu'on partage le local, rue Saint-Vigor, on partage un local avec eux. Mais on partage un peu plus que le local, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on partage aussi des valeurs, et que le réseau d'éducation sans frontières 27 fait partie, avec Amnesty, du collectif Solidarité Migrants de l'Eure. Donc depuis 2017, on a regroupé plusieurs associations d'aide, notamment d'aide au public immigré. Et donc on s'est unis en collectif Solidarité Migrants de l'Eure, donc avec l'ADEME de Vernon, l'ANDA de Pont-Audemer, la LDH d'Évreux, la CIMAD de Gaillon, le CFED d'Asti d'Évreux. Et ils nous ont rejoint cette année le Partenariat Africa, qui est une association d'Évreux, et le Secours catholique. Donc ça fait 10 associations qui font partie du collectif Solidarité Migrants de l'Eure. Et deux fois par an, on rencontre le préfet. Amnesty participe aussi à cette réunion. Donc j'ai participé, j'ai assisté le 24 avril dernier à l'Assemblée Générale de l'Association Solidarité Collectif RESF 27. Donc c'était l'association, l'AG annuelle. Hein. Et moi, ça m'intéressait d'y aller. Et je vais vous faire partager un petit peu quelques lignes du rapport qui a été écrit par rapport à cette association. Et puis d'un texte qui est très fort et que j'avais envie de partager avec vous. Donc juste un petit rappel, c'est que le travail du collectif Réseau d'éducation sans frontières 27 est centré sur la reconnaissance de minorités des mineurs non accompagnés, ceux qu'on appelle les MNA, et sur la régularisation des sans-papiers. C'est donc en premier lieu un travail administratif et juridique. Toutefois, il est apparu très vite dans l'histoire du collectif qu'il n'était pas possible d'ignorer les conditions matérielles dans lesquelles vivent les personnes dont on s'occupe, tant du point de vue de l'hébergement, de l'habillement, de la nourriture, que du point de vue médical et bien sûr de la scolarité des enfants. De fait, les procédures administratives et juridiques sont souvent longues, elles durent de quelques mois à quelques années, et durant tout ce temps, il n'est pas vraiment concevable d'abandonner ces personnes à leur sort. La somme de travail qui incombe aux bénévoles du réseau d'éducation sans frontières est donc considérable. Ils ne parviennent pas notamment à prendre correctement en charge tous les mineurs qui se présentent à eux et ils rencontrent des difficultés à tous les niveaux, dans l'hébergement, dans la scolarisation, dans le suivi médical et bien sûr dans les démarches administratives et juridiques. Toutefois, il y a un travail formidable qui est fait par les bénévoles et il y a beaucoup de résultats qui sont menés tous les ans. Alors, de quoi s'agit-il précisément ? Quelle est aujourd'hui la situation des mineurs isolés que nous prenons en charge dans notre département ? Pour la plupart, il s'agit de jeunes d'Afrique subsaharienne, de Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Cameroun ou de la Guinée. Il y a aussi régulièrement des jeunes venus du Bangladesh, aucun d'Europe de l'Est ou de Syrie. Les migrants d'Europe de l'Est arrivent souvent en famille, pas en mineurs non accompagnés. Il y a aussi des familles qui viennent d'Afrique, mais beaucoup de jeunes dans une situation économique ou familiale très difficile, voire insupportable, tentent leur chance ou sont envoyés par leurs parents en Europe dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Il y a aussi de plus en plus de jeunes filles qui arrivent et qui, dans leur famille ou quand elles perdent le soutien de leur famille, sont victimes d'abus. Tous les spécialistes reconnaissent que la tendance à la migration va nécessairement s'accentuer dans les années à venir, que ce soit pour des raisons économiques, politiques ou climatiques. Nous savons aussi que plus nous sommes efficaces dans notre travail, plus les jeunes se passent le mot. Il y a des associations à Évreux qui peuvent nous aider. Et plus nous avons de jeunes qui viennent frapper à notre porte, il y en a de plus en plus qui arrivent. Cet appel d'air est bien réel au niveau local. Il est évident qu'ils quittent souvent Paris parce qu'on leur dit qu'ils n'y seront pas bien traités. Mais cet appel d'air n'a aucune influence sur l'évolution générale de la migration en France. Personne ne quitte sa famille, ses amis, son village, son pays, pour affronter l'inconnu et risquer la mort ou la torture sans être poussé par la nécessité. On entend dire parfois qu'ils s'imaginent que la vie sera facile en France. Sans doute. Mais il ne faut pas voir dans cette illusion une forme d'ignorance, mais une nécessité pour se donner la force de prendre la route. Le rêve est, dans les situations les plus tragiques, la seule voie par laquelle on puise la force d'avancer. Alors, de notre côté, nous savons parfaitement que mieux nous faisons notre travail, plus de jeunes viendront et que nous n'arriverons jamais à tous les accueillir. C'est une tension à laquelle nous n'échapperons jamais. Il faut l'assumer et mesurer ce que nous faisons, non pas à la aune de ce qu'il nous resterait à faire, mais bien à l'aune de ce que nous faisons. La tâche est infinie et tout ce que nous faisons peut aisément ressembler à une goutte d'eau dans l'océan. Mais regardez cette goutte d'eau. D'un peu plus près, ce sont des dizaines d'enfants que nous parvenons à aider, voire à sauver, d'une vie d'errance. C'est là tout ce qui fait la différence entre le discours politique qui manie les chiffres et des idées et l'action de terrain qui se confronte à la réalité. Aucune idéologie. Aucun calcul savant, aucune politique ne peut justifier que l'on abandonne un enfant à la rue et qu'on le prive du minimum nécessaire à son bien-être. Demandez-vous si c'est un homme, disait Primo Levi, parce que l'humanité nous oblige bien au-dessus de toute autre considération. Lorsque les politiques, comme tous les indifférents, veulent faire passer l'humanité pour de la naïveté, ou pour un idéalisme désuet, c'est ici que commence la barbarie. Et si, de notre côté, nous ne prétendons pas avoir le pouvoir de stopper la barbarie, que nous voyons avancer pas à pas, tout du moins, nous pouvons nous vanter de refuser d'y prendre part et de la combattre à notre mesure. Quelle est concrètement cette barbarie que nous voyons s'avancer ? C'est bien sûr les nouvelles lois, émigration, qui consiste à toujours durcir plus les conditions d'accès des migrants à une société régulière, à une situation régulière, qui les contraint ainsi, non pas à rester chez eux, mais bien à vivre en France, sans droits, sans ressources et dans des conditions toujours plus précaires. Mais c'est aussi des décisions qui froidement s'opposent manifestement aux droits humains internationaux. Lorsque, par exemple, le département de l'Eure, à la suite, il faut l'avouer, de bien d'autres départements en France, décide que l'allocation journalière pour les jeunes mineurs étrangers sera d'un tiers de l'allocation pour les enfants français, c'est-à-dire 150 € au lieu de 160 €. Elle contrevient de façon manifeste à la Convention européenne des droits de l'enfant qui stipule que tous les enfants doivent être traités à égalité, quelle que soit leur nationalité. Lorsque le département de l'Eure refuse d'accueillir des jeunes se présentant comme mineurs, voire qu'elle refuse de se soumettre à des ordonnances de placement provisoire du juge des enfants, il contrevient à la loi française sur la protection des mineurs. La barbarie commence lorsque les lois d'un pays deviennent indifférentes aux droits humains fondamentaux. La barbarie s'étend lorsque les institutions d'un pays estiment qu'elles n'ont plus à obéir à la loi et abandonnent impunément des enfants à la rue. Nous y sommes. Il n'y a pas à craindre que la barbarie s'installe, elle est déjà bien installée. Il n'y a plus qu'à craindre qu'elle s'étende toujours plus et prenne des proportions encore plus considérables. Voilà, je voulais vous faire partager ce texte. Donc c'est Thierry, qui est le président de l'association RESF, qui l'a écrit dans le rapport moral du bilan 2023. Je trouve que c'est un texte très fort et qui rebondit avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux choix qu'on fait pour l'avenir, par rapport à l'avenir qui s'assombrit de plus en plus et à notre possibilité de bien choisir de quel côté on se place. Voilà.
Tout à fait, ça fait tout à fait pendant avec ce qu'on disait au début de l'émission. Juste avec Edith et moi, on a dressé un œil quand tu parlais oui. de l'indemnité
t'es
dont
pas,
bénéficie.
C'est pas mathématique.
Hein. T'as dû te tromper dans les chiffres parce que t'as.
Parce que si c'est un tiers de moins pour les.
Mais est-ce que c'est. Il y a peut-être une petite faute de frappe et moi j'ai lu directement qu'est-ce qui était écrit dans le rapport moral de RESF. Donc c'est 50 sur 150, c'est oui, ça. Et moi j'ai dit 160.
C'est ça.
Vous n'allez pas me tanner pour ça.
Non.
Oui, mais on veut
non,
que
non.
ça soit des faits.
Non, voilà. Mais effectivement, c'est contraire au droit international de modifier ce genre d'indemnité qui crée une différence entre les enfants qui en bénéficient, ce qui est tout à fait contraire au droit international, encore une fois.
Et donc, il y a actuellement encore, je vous le dis à chaque fois, des enfants, des jeunes ados qui sont sans hébergement dans les rues d'Évreux. Voilà.
Et puis moi, je, par rapport à ce que disait donc effectivement Thierry sur ce beau texte, j'entendais, donc là c'est sur la radio, je crois que c'était France Culture, enfin bon, sur Paris, où on veut absolument que Paris soit quand même pour les Jeux Olympiques avec beaucoup moins de monde. Donc maintenant, si on veut avoir. Donc il y a un squat là qui est en train de se faire virer avec beaucoup de femmes africaines et d'enfants. Et là, le journaliste disait que maintenant, pour être. Peut-être hébergé, et je dis bien peut-être parce que le 15 est plein. Faut être enceinte, mais à partir du 8e mois de grossesse. Avant, on peut être à la rue. Et puis pour avoir une femme avec un nourrisson, jusqu'à 3 mois après la rue. Enfin, c'est une belle éducation.
Il y a 2 ans sur Évreux, femmes enceintes, elles n'étaient pas hébergées du tout, et il a fallu attendre qu'elles accouchent à l'hôpital, et après on les garde effectivement 3 semaines.
Voilà. Donc
dans une structure d'accueil, et après on les remet à la rue avec le bébé.
Cette torsion de texte et de normalité, logiquement d'accueil, c'est quand même bien bien soucieux.
Et encore une fois, en prévision des prochaines échéances électorales, réfléchissez bien à pour qui vous allez voter. Il est évident que des gens qui parlent, ça me traverse l'esprit, des gens qui parlent de grands remplacements ou de choses comme ça, ils vont, si jamais ils arrivaient à des postes de responsabilité, il est bien évident qu'ils iraient dans un sens d'aggravation de tous ces phénomènes et que ça aboutirait sur des drames à n'en plus finir. Y compris des drames en termes de vie humaine, ça c'est
et
clair.
Et que les gens qui actuellement ont des vies et des salaires et des compliqués, c'est pas par rapport aux étrangers que ça va changer les choses, quoi. C'est eux aussi au niveau de leur combat. Et ça, c'est un combat à mener pour qu'il y ait moins de personnes en difficulté en travaillant ou au niveau des logements. Mais c'est pas les mêmes combats. Faut pas tout mélanger.
C'est clair. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que tu as le temps, Edith, de faire la petite chronique ou est-ce qu'on a
je ne sais pas.
Je ne crois pas.
Tu crois pas?
Je pense qu'on va passer aux infos locales. Je ferai la prochaine.
Si tu veux en plus donner la parole au laboratoire à l'heure.
Voilà. On va faire du local. Et puis c'est juste un livre. Vous regarderez dans la chronique.
Oui, ou t'en parleras.
Je vous en parlerai la prochaine fois.
Une prochaine fois. Voilà. De toute façon, on voulait aussi parler une prochaine fois de la situation de ce rapport
d'amnistie. Il y a plein de choses à dire la prochaine fois, voire la fois d'après, d'ailleurs.
On a de quoi. Oui, parce qu'on avait dit qu'on ferait aussi une émission spéciale sur les JO.
Voilà. Et puis sur l'intelligence artificielle aussi, on a de quoi faire.
On a de quoi faire jusqu'à la fin du mois de juin. Mmh. Voilà, c'est clair, hein, de toute façon.
Et alors, bon, localement,
il nous reste deux mois d'émission. Alors, localement, notre actualité locale, alors je vais noter effectivement les dates, voilà.
Alors,
notre prochaine émission sur l'antenne de Principe Actif, donc consacrée à la promotion à la défense des droits humains.
On va changer de mois. Ça sera la première
du mois de mai. C'est ça.
Embrouille-le.
Je sens une certaine ironie dans l'arbre.
Bah oui, parce qu'il y a la première, il y a la deuxième. Et là, ça sera la première.
Non, parce que la deuxième, c'est la dernière.
Ah oui, ça c'est vrai. La deuxième est aussi
la dernière.
Tu
vas y arriver, Didier. Vas-y.
Donc c'est la première, celle du début.
Ah, c'est pas simple. C'est pas simple d'animer des émissions de radio, toujours. Donc voilà, la prochaine émission d'Amnesty sur les ondes de Principe Actif, c'est le mardi 14 mai, en direct, de 19h à 20h, donc sur l'antenne de la radio 102.4 et 95.9, comme tout le monde le sait. Alors, la veille de cette émission, donc le lundi 13, on est partenaire d'un spectacle consacré, c'est un spectacle de danse qui s'appelle Yélo, et qui aura lieu à 20h au Cadran. Des places sont toujours disponibles. C'est le premier spectacle qui ouvre le Festival des Anthropocènes avec le Tangram. Et donc, c'est un spectacle de danse fait par des troupes africaines qui est consacré de façon métaphorique, bien sûr, au droit à l'eau pour tout le monde. Et c'est un des thèmes, avec le réchauffement climatique, une des problématiques qui va aller en s'amplifiant. Donc, c'est un spectacle de danse. On est partenaire le lundi 13, 20h, au Cadran. Et après, le jeudi 23, alors mettez déjà une marque sur vos agendas, le mardi 23 mai, à 19h, au Cinéma Pathé, on a donc cette soirée débat qui est confirmée sur un film français consacré aux violences policières. C'est un film de cinéma, hein, c'est pas un documentaire, mais qui n'est jamais passé à Évreux et qui s'appelle « Avant que les flammes ne s'éteignent ». Et donc, c'est une soirée débat. On animera le débat sur les violences policières. C'est le jeudi 23 mai à 19h au Cinéma Pathé. Là aussi, les réservations sont déjà ouvertes et vous avez déjà une petite info qui est sur le site du cinéma. Voilà. On a fait le tour, donc on rappelle, le lundi 13 mai, spectacle Yélo au cadran. Mardi 14, le lendemain, notre émission en direct sur l'antenne de Principe Actif. Et le jeudi 23, soirée débat au Cinéma Pathé, autour du film « Avant que les flammes ne s'éteignent ». Voilà, on va laisser l'antenne, au laboratoire. Et puis, je ne savais pas si le laboratoire c'était en direct ce soir à cause de la semaine du 1er mai, mais je vois que notre ami Trémolo est arrivé. Et donc voilà.
C'est pas aujourd'hui le jour férié, hein. C'est demain. Non.
Oui, mais enfin, voilà. C'est demain. Puis il y a d'autres jours fériés aussi la semaine prochaine. Le mois de mai, c'est toujours un mois avec plein de jours fériés.
Ah, puis il faut dire aux gens aussi, on n'a pas eu le temps de faire un appel à action, donc ils aillent sur le site d'Amnesty, qu'ils signent les pétitions, qu'ils se renseignent.
Tout à fait. Et on parlera, je pense, de l'appel à l'action la prochaine fois. Ce sera encore possible au niveau des dates. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. On vous rappelle aussi notre mail de contact, ici pour le groupe d'Evreux. Donc, evreux@amnestyfrance.fr. evreux@amnestyfrance.fr. Et on laisse la place au laboratoire avant de se retrouver sur l'antenne de la radio le 14 mai.
Et on dit au revoir.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.